spécialité linguistique?
Je dirais que c'est un régime qui comprend des politiques, des comportements, des attitudes qui essentiellement régissent une partie du vivre ensemble au Canada, qui est promu, qui fait l'objet de résistance aussi, qui évolue dans sa composition et dans son expression. Mais c'est quand même une condition qui s'est avérée essentielle pour que cette colonie française qui est devenue britannique se tienne ensemble tant bien que mal, souvent mal, parfois bien, parfois, c'est, voilà, on s'entend comme on peut.
Donc, ça promet d'être une émission fort intéressante. C'est maintenant le temps d'écouter notre première pièce musicale datant de 1997, ici dans le Nord, du groupe franco-ontarien En Bref, un groupe phare de la francophonie canadienne. Bonne écoute!
Ici, dans le Nord, ici dans le Nord, ici dans le Nord, nous sommes arrivés. Il y a un peu plus d'une centaine d'années, ici nous allons travailler. Dans les mines et les chantiers, ici dans le Nord, ici dans le Nord. Le temps était dur dans les chantiers, force et courage les deux à la fois,
force et courage les deux à la fois.
Pour braver l'hiver, fallait travailler. Printemps arrivé, on entrait chez soi.
Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire au prochain segment.
Donc, vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur la dualité linguistique au Canada en compagnie de l'historien Serge Dupuis. Nous avons discuté précédemment de l'intérêt de notre invité quant à la rédaction d'un ouvrage traitant de la dualité linguistique canadienne. Et maintenant, plongeons dans ce sujet intéressant. D'abord, première question pour entrer plus profondément dans notre sujet, comment la dualité linguistique prend-elle naissance sur le territoire?
C'est une question d'obligation, finalement. Lorsque la Grande-Bretagne obtient la Nouvelle-France et appelle ça le Canada ou la province de Québec, en fonction de l'expression qu'on veut utiliser, c'est qu'elle est ingouvernables sans une certaine, sans des politiques d'accommodement. Donc, les premiers gouverneurs, en fait, sont francophiles. Et puis, on se rend compte que si on veut éviter que les Canadiens se joignent à la Révolution américaine, parce qu'il y a seulement en 1763 puis 1775, il y a seulement une douzaine d'années, on a peut-être besoin d'être conciliant et de leur fournir des privilèges qui ne sont même pas disponibles, par exemple, aux Irlandais. En fait, il y a des contraintes vis-à-vis de la pratique du catholicisme ou de leur, et la pratique de leur langue qu'on n'imposera pas au Canada. Donc, il y a trois choses essentiellement dans l'acte de Québec. On préserve le droit civil. La pratique de la religion catholique et l'utilisation de la langue française non seulement sur le territoire, mais avec les autorités politiques. Et cette tolérance-là, cet accommodement-là continue d'être respecté ou réaffirmé, par exemple, lorsqu'on constitue la première Assemblée législative pour le Bas-Canada. Donc, il y a certaines mesures comme celle-là qui sont mises en place afin de, non pas afin de permettre l'expansion de la population canadienne-française, en fait, à cette époque-là, c'est vu comme une mesure temporaire d'accommodement. Pour que les Canadiens s'assimilent en douce. Ça ne fonctionnera pas vraiment, mais c'est un peu l'intention là, des autorités britanniques à l'époque.
Donc, une série, finalement, d'accommodements, si on veut, M. Dupuis, à partir dès 1774, avec l'acte de Québec, là, qui est extrêmement important. Puis, bon, finalement, il y a le projet de la Confédération, on en dit, 1867. Oui. À ce moment-là, bon, comment c'est perçu par les Canadiens français au niveau de la langue?
Il y a une certaine... faut pas oublier que, justement, avant la Confédération, on était dans le Canada uni. C'est-à-dire que Lord Durham, après les rébellions, avait recommandé deux choses, qu'on soit plus agressif dans la marginalisation de la langue française, mais aussi qu'on accorde le gouvernement responsable, c'est-à-dire que le pouvoir ministériel revienne aux élus. Donc, on décide de mettre les Canadiens français et les Canadiens d'origine britannique à l'intérieur d'une même colonie, où finalement il y a une disproportion entre les élus parce qu'on donne le même nombre d'élus au Canada puis au Bas-Canada, et sachant qu'il y a des autorités, qu'il y aura des représentants écossais et britanniques à Montréal, que les anglophones auront une majorité artificielle. Or, à ce moment-là, c'est ingouvernable, impraticable, parce qu'on ne cherche pas nécessairement à gouverner les choses de la même manière. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on commence à parler de confédération, qu'on se dit l'union d'une colonie politique, c'est peut-être pas ce qui nous rendrait la vie la plus facile. Il faudrait peut-être réfléchir à autre chose. Et le fédéralisme se révèle comme une espèce de compromis entre le système britannique, qui est un peu plus unitaire comme monarchie parlementaire, et qui créer des difficultés au niveau des reconnaissances régionales et locales, et le système américain qui est vu comme étant trop décentralisé, avec qui rend aussi l'appareil ingouvernable. Donc, on observe ces deux modèles-là. Et puis, on est soucieux aussi du respect des particularités régionales. Puis à l'époque, on parle de particularités religieuses et particularités linguistiques. Et si on va créer des provinces à l'intérieur de ce régime-là, il faudrait bien que les provinces puissent s'occuper de matières culturelles et religieuses. Et c'est la raison pour laquelle l'État québécois est officiellement reconnu comme étant bilingue en 1867 et que les minorités religieuses ont accès à leur régime scolaire.
Donc, si le Québec, en 1867, est reconnu comme bilingue, est-ce qu'on peut dire que l'État fédéral, lui, était bilingue au moment de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de son adoption?
Il offre une reconnaissance officielle à la langue française dans les tribunaux et à la Chambre des communes. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que l'appareil comme tel, officiellement, fonctionne en anglais, même si on peut utiliser la langue française et elle peut être reconnue dans des documents. Donc, ce n'est pas un bilinguisme officiel, c'est plutôt une forme de reconnaissance que l'État fédéral, qui comprend quatre provinces à ce moment-là, dont une qui est bilingue et les autres qui, en fait, n'ont pas de règlement linguistique, mais c'est juste présumé qu'ils vont fonctionner en anglais, finalement, qu'on a besoin d'accommoder le Québec, qui a une certaine représentation de leur langue et de leurs coutumes au sein du Parlement fédéral. C'est un compromis. Les autorités politiques du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse ou de l'Ontario n'auraient pas accepté le bilinguisme officiel de mur à mur là, au sein de l'État fédéral, mais les Canadiens français, en général, se disent satisfaits. C'est une amélioration. Grosse amélioration en 27 ans par rapport à ce que Lord Durham préconisait, qui était la marginalisation de la langue française et l'abolition d'une assemblée législative bas-canadienne ou canadienne-française. Donc, on regagne ça. Et en plus, justement, d'une démocratie plus ou moins complète, on gagne des compétences législatives locales qu'on pourra gouverner en français. Et à partir de 1867, certes, l'État québécois est officiellement bilingue et doit fonctionner plus ou moins dans les deux langues, mais le français, de par le poids des fonctionnaires francophones et le poids de la population locale, fonctionne essentiellement et surtout en français. Donc, c'est vu comme une grande amélioration. C'est pas l'idéal. On croyait que l'indépendance, à ce moment-là, serait impraticable ou que ça mettrait les Canadiens français à risque d'une annexion éventuelle aux États-Unis. Donc, c'est comme le moindre mal. Puis on est relativement heureux vis-à-vis de cette nouveauté-là, même si c'est imparfait, voire très imparfait en fonction là, des opinions politiques.
Oui, il y a quand même toute une frange de la population canadienne-française à l'époque qui est assez contente de se retrouver dans un système confédératif. Si on pense au clergé, par exemple, qui regarde, entre autres, la Révolution française d'un très mauvais œil, puis qui se dit « OK, bon, on est dans un système confédératif, c'est pas l'idéal, mais quand même, on a une préservation de la culture canadienne-française, malgré tout. »
C'est ça, et le clergé est content, effectivement, parce que le clergé maintient la mainmise sur l'éducation. Et il y a des droits scolaires qui sont reconnus pour les minorités catholiques dans les autres provinces aussi. Ça, faut pas oublier. C'est-à-dire l'État va financer des écoles protestantes et des catholiques, des écoles catholiques et des écoles protestantes dans les quatre provinces. En fait, les garanties sont les plus fortes pour l'Ontario et le Québec. Puis ensuite, dans les maritimes, en fait, c'est moins reconnu, puis c'est contesté, puis les écoles religieuses finissent par disparaître. Mais pour l'Ontario et le Québec, les écoles catholiques sont préservées. Les droits sont préservés là aussi. Donc, le clergé est assez heureux. L'élite marchande est assez heureuse. Les conservateurs le sont aussi. Les libéraux ont plus tendance à trouver ça inadéquat par rapport à l'idéal de république qu'ils avaient porté dans les années 1830. Mais on finit par se faire à l'idée, puis on voit ce qu'on peut développer là, avec ces nouveaux instruments-là. Plusieurs partent de la perspective que finalement, bon, les Canadiens sont une population conquise, donc qu'on obtienne autant 90 ans plus tard, c'est quand même un succès ou une réussite, selon la perspective de l'époque, bien sûr.
On va faire un petit bond dans le temps maintenant. Okay. Après la Première Guerre mondiale, le Parti libéral au pouvoir de 1921-1930 et de 1935 à 1957 a tenté de bâtir un nationalisme canadien civique, libéral, nord-américain et partiellement biculturel. À ce moment-là, on a vu que la langue prenait déjà une place importante dans la construction du fédéralisme, la construction de l'identité du peuple canadien. Après la Première Guerre mondiale, la langue occupe-t-elle... quelle place occupe-t-elle dans l'identité, la construction de l'identité canadienne?
Elle occupe une plus grande place parce que il faut pas oublier que dans les années 20, on sort de la Première Guerre mondiale. Le Canada a beaucoup sacrifié sur les champs de guerre d'Europe. Et l'impérialisme britannique qui a connu une certaine expansion à la fin du 19e, début 20e siècle. Et on voit ça d'un mauvais œil. Des gens comme Henri Bourassa ne tolèrent pas justement l'implication du Canada dans plusieurs de ces conflits mondiaux-là. Il y a une hostilité grandissante vis-à-vis du fait français. En fait, toutes les provinces adoptent des règlements qui abolissent l'enseignement du français ou le restreignent considérablement entre la Nouvelle-Écosse qui adopte une première mesure en 1864 jusqu'à l'Ontario qu'il fait en 1912. Donc, il y a un certain essoufflement vis-à-vis de cette tendance-là. Faut dire aussi que c'est plus la position des conservateurs qui veulent lire la Constitution à la lettre et qui disent, bon, dans la Constitution, on n'a pas garanti l'enseignement en langue française dans les autres provinces que le Québec. On a garanti les écoles religieuses seulement. Contentez-vous de ça. Alors que les libéraux cherchent plutôt à respecter l'esprit de la Constitution et adhèrent un peu plus à l'idée d'Henri Bourassa de voir le Canada comme un pacte entre deux peuples. Cette expression-là n'existait pas vraiment en 1867, mais encore, c'est inscrit dans l'esprit de la manière qu'on perçoit la Confédération au Parti libéral. Donc, lorsqu'ils arrivent au pouvoir en 1921, eh bien, on veut renverser les règlements scolaires qui interdisent ou limitent sévèrement la présence du français dans les écoles. On agit de différentes façons. Bon, Laurier est intervenu au Manitoba beaucoup plus agressivement qu'au territoire du Nord-Ouest. Et puis, le premier ministre King n'intervient pas directement dans la crise du règlement 17. Mais on l'espère qu'en discutant d'une identité originale canadienne qui ne serait pas ancrée dans les valeurs britanniques, qui pourrait permettre à la fois la reconnaissance de la géographie et de deux langues, finalement, qui ont contribué à la colonisation du pays, qui continuent d'être deux langues de société, qu'il faudrait peut-être les reconnaître par des mesures anodines, là, comme des timbres et puis les billets de banque. Ça a l'air très marginal de notre perspective aujourd'hui, mais à l'époque, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une concession qui montre qu'après 50 ans, la place de la langue française a fait du surplace là, au sein de l'État fédéral, qu'on pourra peut-être l'accroître petit à petit, au compte-goutte. Et c'est ce qui se passe dans les années 20 et 1930 sous ce gouvernement-là, où on prépare le terrain avec des mesures limitées, mais quand même fortement symboliques pour faire avancer cette idée-là d'un pacte entre deux peuples.
Mais malgré tout, malgré ces petits gestes, on voit le recul du poids démographique des francophones qui sont de plus en plus assimilés au sein des provinces comme dans les Prairies, en Nouvelle-Écosse, sur l'île du Prince-Édouard. Donc, au cours des décennies qui ont suivi, oui, on parle plus des décennies 50-60, quels impacts la prise de conscience de la marginalisation croissante des francophones au Canada a-t-elle sur les rapports entre l'État fédéral et l'État québécois?
Elle est importante au niveau des perceptions. Parce que à la fin du 19e et surtout au début du 20e siècle, à cause du taux de natalité des Canadiennes françaises, qui augmente à cause de la religion, mais juste à cause aussi de questions d'accès à des soins de santé et la salubrité des milieux urbains, la natalité et puis augmente beaucoup et la mortalité infantile diminue. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un taux de reproduction très élevé, que les Canadiens français se retrouvent en Nouvelle-Angleterre, oui, mais à coloniser beaucoup de régions dans le nord québécois et puis vers l'ouest, donc l'Ontario et puis les prairies. Ça fait en sorte que la population canadienne-française est continuellement en train d'augmenter à ce moment-là. Et le territoire occupé où les Canadiens français sont nombreux ou même majoritaires grandit énormément. Puis ça atteint son apogée dans les années 20. Par la suite, je dirais que l'assimilation n'est pas une donne encore très importante au Canada comme tel. Elle commence à l'être en Nouvelle-Angleterre. Mais c'est plutôt l'afflux d'immigration qui fait en sorte que le poids démographique des francophones diminue. Et qui dit immigration, dit marginalisation des francophones, pas seulement dans les autres provinces canadiennes, mais au Québec aussi. Hein. Faut pas oublier que y a moins de 20% des immigrants qui s'intègrent à la société francophone, qui compose quand même plus que 80% de la population au Québec. Donc, l'immigration est vue comme justement une pas nécessairement une menace, mais un facteur à tenir en compte. Et on commence à se dire que bien, il faut peut-être miser les énergies davantage sur le vivre ensemble au Québec, où on a peut-être une meilleure chance, finalement, d'intégrer une proportion plus élevée de l'immigration que dans les milieux minoritaires qui sont dispersés et où, effectivement, le poids démographique diminue, même si le nombre de francophones continue d'augmenter. Donc, il y a une espèce de virage qui commence à se faire dans les années 40 et 50 vers des préoccupations qui sont plus typiquement québécoises. Je dirais qu'on... C'est pas nécessairement qu'on méprise ou qu'on abandonne, mais on détourne l'attention un petit peu. Ce n'est plus l'archipel de paroisses qui traverse une bonne partie du continent. Finalement, on commence à s'intéresser beaucoup plus à l'État québécois comme un outil d'avancement social et libération des Canadiens français, mais aussi peut-être comme une espèce de réserve où il y a des choses qui sont possibles, qui ne sont pas possibles ailleurs.
Non, on a parlé d'une provincialisation de la question linguistique qui est quand même abordée dans votre ouvrage, qui était très, très intéressante. Et cette provincialisation de la question linguistique a continué là, dans les décennies qui ont suivi. Et avant d'aller dans notre prochaine pièce musicale, eh bien, j'aimerais aborder la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme que Lester B. Pearson met en place en 1963. Donc, au cours des années 60, c'est présenté un moment opportun là, pour repenser la dualité linguistique et la dualité culturelle au Canada. Comment cette commission-là propose-t-elle de repenser les relations entre le Canada français et le Canada anglais?
C'est un moment qui est très important parce qu'il permet d'éclairer ce que André Bruel appelait le mal canadien, c'est-à-dire de le comprendre dans sa profondeur. Il ne faut pas oublier, en fait, la recherche sur ces questions-là est très peu développée. Donc, en fait, les connaissances scientifiques sur la réalité du terrain, en fait, existent peu avant ce moment-là. Puis c'est les raisons pour lesquelles les études démographiques, par exemple, du père Richard Arès, ont autant atteint l'imaginaire. C'est qu'on n'était pas nécessairement au courant de certains glissements ou d'une certaine érosion du fait français ou de l'impact. On ne pouvait pas mesurer l'impact que l'immigration avait. On pouvait le faire, mais pas en aussi grand détail. Finalement, la commission Laurent d'Odonton, elle doit être comprise à deux niveaux, c'est-à-dire c'est une vaste consultation et c'est une vaste entreprise de recherche pour comprendre la situation. Donc, vraiment, on met le meilleur des deux mondes. On prend des opinions et des anecdotes et on va chercher aussi la recherche afin de formuler des recommandations. En fait, une panoplie de recommandations. La commission embauche quelques centaines de personnes là, au milieu des années 1960 et on explore toutes sortes de possibilités pour voir ce à quoi pourrait ressembler un Canada bilingue et biculturel, qui n'était pas une expression qu'on utilisait beaucoup, le biculturalisme, mais qu'on pourrait reconnaître un peu là, cette dualité nationale-là. Quel genre de pays serait à la fois acceptable aux anglophones et aux francophones? On ne posait pas trop la question autochtone à l'époque. Et on émet beaucoup de recommandations à ce niveau-là. Certaines d'entre elles sont adoptées. Il y en a plusieurs, en fait, qui finissent par être écartées à la fin des années 60 et 1970 pour toutes sortes de raisons, mais parce que la conjoncture politique fait en sorte que cette québécisation-là de la question fait aussi en sorte qu'on alors qu'en 1960, très peu de gens au Québec auraient été hostiles au bilinguisme. En 1970 ou 1975, on le devient parce que l'unilinguisme français est mis de l'avant comme politique pour favoriser le vivre ensemble et l'avancement des francophones au Québec. Donc, il y a comme le temps avance en accéléré. Ça fait en sorte que il y a certaines de ces propositions-là aussi qui sont irrecevables dans les années 70.
Donc, c'est maintenant sur ce. Hein, on a abordé tout plein de sujets sur lesquels on va revenir au cours de l'émission, dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'est maintenant le temps d'écouter notre deuxième pièce musicale datant de l'an 2000, québécois de souche du groupe québécois Les Cowboys Fringants. Bonne écoute.
Je suis un québécois de souche. Ma loi sans un faux pas que tu touches. C'est pas que je sais pas bien parler, mais je suis un colon anglicisé.
shop, les boys m'ont dit le foreman vu que tu délongues la vanne avant de puncher à peine ton shit. J'vois l'enchaîne du shipping chercher le packing slip du gars qui a collé son helper qui dormait sa switch.
C'est un Québécois de souche. Je chante du margeau sous la douche. C'est pas que je sais m'en bien parler, mais je suis un colon anglicisé. Garage motoé, puis choc, puis break, mon muffler est fucké. Une main sous le dash vers le hood, c'est le casquette qui est jamé. Changer spark plug, la strap de fan, puis galipper. Hey, mes beaux mags, mon char est nœud, bumper à bumper, oh yeah! C'est le Québécois de souche.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Les mercredis, dès 13h, synthonisez le deuxième service sous les ondes de Chiz 94.3.
Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, de l'improvisation, du théâtre, de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV! Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de... gratuit! Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Jeanne d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'anglais.
Est-ce que ça peut attendre? C'est 3600 secondes d'histoire.
Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour 100 ans.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur l'histoire de la dualité linguistique au Canada en compagnie de l'historien Serge Dupuis. Avant la pause, nous avons discuté de l'évolution de la dualité linguistique canadienne de la Nouvelle-France à partir de 1763 au début des années 1970. Et maintenant, attardons-nous à ces années 70 et aux années ultérieures. Donc, on va entrer avec une figure forte du fédéralisme canadien. Pierre-Éliott Trudeau s'est démarqué comme une figure forte du fédéralisme au cours des années 70 et 80. En 1969, son gouvernement dépose en chambre la loi sur les langues officielles. C'est notamment avec la sortie de l'ouvrage qu'on célèbre le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles en 1969. C'était une promesse électorale du gouvernement libéral en 68. Oui. Et il se dégage de cette loi-là une vision de l'identité canadienne assez particulière. Quelle est cette vision, justement?
Je dirais qu'elle est... Elle est d'une certaine manière mal comprise parce que la loi sur les langues officielles cherche d'abord à assurer que le français et l'anglais auront un statut au sein de l'appareil fédéral. Donc, c'est une question qui concerne les fonctionnaires et leur capacité de travailler, de servir le public. Et il y a des programmes qui l'accompagnent. Donc, par exemple, le financement pour la culture en milieu minoritaire, qui commence en 1968. C'est sous le secrétariat d'État, mais c'est pas directement lié à la loi sur les langues officielles. Tout comme les ententes de financement pour l'éducation en langue officielle minoritaire, qui sont conclues en 1970. Souvent, c'est confondu avec la loi sur les langues officielles, mais en fait, non, c'est un programme qui est indépendant parce que là, c'est le fédéral qui est en train d'intervenir dans une compétence provinciale pour dire, ben écoutez, vous avez besoin de les éduquer, ces franco-albertains-là, de toute façon. Nous, on va vous donner un 10 % un boni de 10 % finalement, pour reconnaître que ça va coûter un peu plus cher opérer une école de langue française. Donc, grosso modo, c'est ce qui permet à tout ça de se déployer. On commence aussi à financer des programmes d'immersion pour que des anglophones aient l'occasion d'apprendre le français. Bon, ça ne se déploie pas partout. C'est surtout pour des écoles d'élite où les commissions scolaires veulent le faire. Il y a quand même une certaine résistance aussi parce qu'il y a cette crainte-là au Canada anglais que le bilinguisme... finalement, les marginaliserait au sein, non seulement dans leur capacité d'obtenir un emploi dans la fonction publique fédérale, mais que, bon, il y avait c'était un complot de Trudeau, justement, pour rendre tout le monde bilingue afin éventuellement de les franciser. Mais en tout cas, c'était complètement fou parce que, au contraire, Trudeau était très ancré là, dans son multilinguisme et puis les droits individuels. Il n'avait pas nécessairement. Je pense qu'il y avait une quête de dignité parce que Trudeau avait quand même travaillé à Ottawa dans les années 50 et trouvait ça aberrant qu'on travaillait essentiellement seulement en anglais, dans ces boîtes-là, que les Canadiens français étaient sous-représentés. Donc, il y avait une espèce de... Trudeau cherchait à régler des injustices. On va le dire à ce niveau-là. Donc, ce n'était plus nécessairement de respecter l'esprit de la dualité de deux peuples fondateurs, mais de combattre des injustices. Donc, s'il y avait des injustices par rapport à l'accès à l'éducation, des minorités francophones, ils voulaient faire ça. Une sous-représentation dans la fonction publique, ils voulaient s'assurer de faire ça. Mais en même temps, la loi sur les langues officielles s'appliquait aussi au Québec. Donc, c'était aussi pour dire, au moment où le Québec était en train de réfléchir à l'unilinguisme français, on va s'assurer là, que le gouvernement fédéral reste bilingue et reste un phare pour la langue anglaise au Québec, même si les défis de la minorité anglo-québécoise puis les minorités franco-canadiennes n'étaient pas du tout pareils.
Donc, on peut penser que ça a été peut-être relativement mal reçu, si on veut, par les Québécois à ce moment-là, mais sinon, pour les communautés francophones en général au Canada, est-ce que cette loi-là a été bien reçue? Est-ce que c'était...
Ben, je vais vous corriger. En fait, à l'époque, il y a une légère majorité des Canadiens anglais qui sont en faveur. Légère majorité, 50-quelques pourcents. Les francophones, qu'on soit au Québec ou à l'extérieur du Québec, sont largement en faveur de la loi sur les langues officielles parce qu'ils voient ça comme étant, à ce moment-là, en 1969, comme étant un pas dans la bonne direction, de reconnaître la dualité nationale, d'avoir cette cohabitation-là, un nouveau déploiement du fédéralisme. À ce moment-là, on pense que c'est un début, parce qu'on voit les recommandations de la commission Laurando-Dunton qui nous arrivent depuis 1963. On les voit arriver, puis on se dit, ben oui, une loi sur les langues officielles, c'était une première étape qu'on reconnaissait. Il va en avoir d'autres. Donc, tant mieux, c'est bien. On aura réglé la question des droits linguistiques, puis on va passer à des mesures plus compliquées par la suite. Donc, les gens sont généralement en faveur à ce moment-là. C'est plus à partir des années 1970 lorsqu'on voit qu'on ne reconnaîtra pas une dualité nationale, que le Québec n'obtiendra pas de nouveaux pouvoirs constitutionnels, qu'on adopte une politique sur le multiculturalisme. Puis à ce moment-là, la politique du multiculturalisme, en fait, il n'y a personne qui la lit vraiment parce que, bon, on parle beaucoup de la diversité culturelle et que les immigrants vont finir par parler français ou anglais. On le dit dans la politique de multiculturalisme, sauf que c'est vu comme une trahison de la reconnaissance du biculturalisme ou de la dualité nationale, finalement, de la reconnaissance de deux sociétés d'intégration. Donc, alors qu'au Québec, on cherche à promouvoir cette idée-là que les immigrants pourraient devenir des francophones, même s'ils ne parlent pas le français en arrivant au Québec, parce que c'est quand même assez... ils ont tendance à devenir des anglophones. On essaie de promouvoir cette idée-là, et puis là, c'est vu comme un frein. Et surtout, chez les minorités francophones, c'est ça, dans les autres provinces, on a tendance à voir le multiculturalisme comme étant un aplatissement de leurs différences. Bon, on entend du Doug Ford comparer les 600 000 franco-ontariens ou 600 000 ontariens d'origine chinoise. Bon, puis M. Legault a dit à ce moment-là, ben, j'apprécie pas vraiment cette comparaison-là. Cette idée-là que les francophones seraient un groupe ethnique parmi les autres est assez mal reçue. Il y a une espèce de méfiance qui s'installe dans les années 1970 à partir du moment où on voit que la loi sur les langues officielles n'était pas un point de départ, mais un point d'arrivée. Dans cette reconnaissance-là. Donc ça crée des problèmes, on va le dire comme ça.
Est-ce que ça peut motiver aussi l'adoption du Québec de politiques unilinguistes, finalement, avec la loi 101 ou la loi 22, par exemple?
Oui, je pense que sans ce frein-là sur la reconnaissance de la dualité nationale, je ne suis pas sûr qu'on a... Bon, là, on est en train de faire de l'histoire d'ici, là, mais ouais. Est-ce qu'on aurait eu deux référendums? Est-ce qu'on aurait eu les politiques pour l'unilinguisme français? On peut être moins sûr, parce que c'est pas une coïncidence que ces mesures-là arrivent et que l'élection du Parti québécois arrive par la suite devant un certain refus du gouvernement fédéral libéral à ce moment-là. Donc, l'un encourage l'autre. On parlait du linguisme français auparavant, mais aussi cette idée, puis en tout cas, il y a aussi cette perspective-là que si l'État fédéral s'occupe du bilinguisme ou de la dualité linguistique, eh bien que le Québec n'a plus besoin de se charger de cette responsabilité-là. Bon, il faut comprendre, la loi sur la langue officielle du Québec en 1974 essentiellement reconnaît que le français est la langue publique au Québec, mais n'occasionne pas nécessairement un recul pour les droits de la minorité anglophone. Les Anglo-Québécois continuent de recevoir leurs services. On n'est pas en train de proposer d'abolir leur langue ou qu'il n'y a pas de municipalité bilingue là, où les anglophones sont majoritaires, les reculs ne sont pas dramatiques à ce niveau-là. Mais bon, il y a une espèce de réaction, effectivement, une appropriation de la question dans les années 70 par l'État québécois. Puis on peut voir finalement ces mesures-là comme étant complémentaires. En même temps, ce qui est tragique dans tout ça, c'est que les minorités francophones ont l'impression qu'elles ne peuvent plus dépendre de la société civile québécoise, mais qu'elles ont besoin de se tourner vers l'État fédéral pour protéger leurs droits. Et je dirais c'est un peu... on se trouve encore dans cette situation-là 50 ans plus tard.
Est-ce que c'est un moment où se développent peut-être les premiers conflits entre les minorités francophones hors Québec et le Québec qui, là, se déclare nationaliste et, bon, justement, va promouvoir ces différents projets de loi-là?
Je dirais il y a toujours eu des distinctions, puis on peut le voir au premier congrès de la langue française en 1912, que, les francophones dans la majorité des endroits au Québec, où ils sont majoritaires, et les francophones qui vivent en situation minoritaire ne vivent pas la même réalité identique. Ça se ressemble davantage quand on est dans un village, puis ça se ressemble un peu plus. Mais jusqu'aux années 60, on a tendance à mettre l'accent sur ce qui rassemble les Canadiens français, alors qu'à partir des années 1970, on met l'accent sur ce qui les distingue. Alors que finalement, il y a des choses qui les rassemblent et qui les distinguent avant et après, mais l'accent est déplacé. Ce qui fait en sorte que, parce que l'expression canadienne-française est démodée au Québec, ben tous les francophones de l'Ouest qui se définissaient comme des Canadiens français finissent par être des franco-ontariens, des franco-manitobains, et ainsi de suite. Alors que ces expressions-là, elles existaient, mais elles n'étaient pas prédominantes au niveau identitaire, comme le vocable québécois n'était pas prédominant dans l'identité des Canadiens français jusqu'aux années 1980, en fait. Cette fragmentation-là de l'identité va avoir tendance justement à accentuer les différences, alors que parfois, c'est ça, certaines des différences sont réelles, puis d'autres sont fabriquées et deviennent peut-être réelles avec le temps et dans l'esprit des gens.
Au cours des années 60, on a parlé un petit peu tantôt là, de la commission Laurando-Dunton, et celle-ci faisait émerger l'idée d'octroyer au Québec un statut particulier, hein, aussi dans la provincialisation de cette question linguistique. La même idée, là, l'octroi d'un statut particulier au Québec était inscrite à des niveaux, bien sûr, de reconnaissance différents dans les programmes des accords constitutionnels du Lac-Meech et de Charlottetown.
Oui.
Qu'est-ce que les discussions et négociations au sujet de l'octroi d'un statut particulier au Québec ont-elles mis en lumière quant à la dualité linguistique?
Elles ont, je dirais, créé un certain malaise dans les autres provinces qui se disaient, mais pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que dans l'esprit de beaucoup de gens ailleurs, en fait, le Québec n'était pas une province comme les autres, mais était une province, et restait une province. Et on ne voyait pas pourquoi, s'il y avait une décentralisation vers le Québec, il n'y aurait pas une décentralisation vers les autres provinces. Et l'exemple du dossier de l'immigration est parfait. Finalement, on a aujourd'hui 13 ministères de l'immigration au Canada, en partie parce que le Québec a voulu pleinement exercer justement sa liberté dans cette compétence partagée-là. Donc, la décentralisation a amené de la décentralisation partout. L'idée du statut particulier était de reconnaître peut-être le rôle unique que le Québec pourrait jouer pour la langue française sur son territoire, mais aussi au Canada et en Amérique du Nord. Et cette idée-là ne fait pas consensus, nécessairement, parce qu'on se dit, bien, est-ce que le Québec va finir par s'ingérer dans les compétences provinciales d'une autre province? Il y a des anglophones qui trouvent au Québec que leurs droits sont réduits ou compromis par la Charte de la langue française de 1977. Donc, finalement, est-ce qu'on va avoir de la réciprocité? Puis ça révèle une certaine difficulté du fédéralisme qu'on a, qu'on a encore aujourd'hui, où les questions culturelles, parce qu'elles ont été provincialisées, ça fait en sorte qu'on a un peu besoin de régimes linguistiques distincts pour chacune des provinces, et ça rend difficile de travailler entre le Québec francophone et les minorités francophones. Il y a toujours eu un rôle que l'État québécois a joué, mais c'est de la coopération politique, c'est de la coordination, c'est plus comme une espèce de détour ou de par moyen contourné qu'on arrive à s'entendre puis échanger, mais il reste que cette idée-là ne passe pas la rampe, finalement, dans toutes les provinces. Donc, avec Meech ou Charlottetown, on n'atteint pas la cible. Donc, si Meech avait passé, peut-être qu'on aurait des rapports différents aujourd'hui, mais finalement, le fédéralisme qui prévaut est encore celui de l'entente constitutionnelle de 1982 et de la Charte canadienne des droits et libertés.
Nous sommes déjà au dernier segment de l'émission. Parlons maintenant d'actualité et de cette dualité linguistique aujourd'hui au Canada. On l'a vu un peu au cours de l'émission. Les minorités francophones au Canada ont rencontré quand même plusieurs difficultés quant à l'accès à un enseignement de qualité en français, et ce, même avant l'adoption de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Comment se porte l'enseignement du français aujourd'hui au sein des communautés francophones minoritaires?
Le développement du droit à ce niveau-là, depuis 1982, est fascinant parce que en 1982, il y a juste les francophones du Nouveau-Brunswick qui gèrent leurs écoles, qui ont des conseils scolaires de langue française. Dans les autres provinces, on a des comités consultatifs où on n'a rien. Il existe encore des écoles bilingues. En Alberta, ça n'existe pas, des écoles de langue française. Il y a des écoles bilingues et des écoles de langue anglaise. Plusieurs milieux urbains n'ont pas d'école de langue française du tout, que ce soit St. John's, à Terre-Neuve ou Vancouver. Et finalement, l'article 23 qui garantit un accès, là où le nombre le justifie, à un enseignement dans la langue de la minorité, permet une expansion de ce régime-là. Donc, on a des écoles de langue française primaire et secondaire dans la grande majorité des concentrations de population au Canada. Depuis l'an 2000, on a des conseils scolaires francophones, au minimum un, dans chacune des provinces et territoires. Ce qui fait en sorte qu'il y a... puis c'est pas vieux, là. Moi, je m'en rappelle, en 98, quand les Franco-Ontariens ont obtenu un conseil scolaire, mon père travaillait dans un conseil scolaire bilingue avant. Donc, ça n'a pas eu un impact au niveau de notre école, parce qu'on avait quand même accès à une éducation primaire et secondaire en français. Mais il reste que c'était géré par un conseil qui fonctionnait en anglais, essentiellement, qui était catholique, qui c'est ça, fonctionnait en anglais d'abord. Et puis, mon père qui travaillait là, qui devait apprendre des termes en français qu'il n'avait jamais utilisés auparavant, même s'il est francophone. Donc, c'est pas vieux, en fait. C'est très récent, tout ça. Donc, il y a une question d'accès qui est impressionnant. Là où le bas blesse, c'est que ces nouveaux droits linguistiques-là n'ont pas réussi à renverser la tendance vers l'assimilation. Et là encore, on peut voir le verre comme étant à moitié vide ou à moitié plein, que 57 % des jeunes préservent leur culture, puis qu'il y en a 43 % qui la perdent. Bien, donc, En quelque part, je vous dirais, ce qu'il faut plutôt comprendre, c'est que le régime fédéral, le régime linguistique, permet à ce qu'il y ait reproduction culturelle dans les milieux minoritaires, jusqu'à une certaine mesure, mais qu'il y a autant de gens qui perdent leur culture, révèle aussi qu'il y a des rapports de force qui défavorisent le français, parce que on ne voit pas, par exemple, c'est des taux très marginaux, des anglophones au Québec qui perdent la capacité de parler l'anglais. Ça, c'est un phénomène plutôt marginal. On le voit un peu en Gaspésie, un peu à Québec, où c'est des régions à très forte majorité francophone. Mais globalement, c'est quand même des statistiques qui sont en dessous de 5 % au Québec, on voit... Dans l'ouest de l'île de Montréal, puis à Gatineau, en fait, des francophones qui perdent un peu la capacité de parler français. Donc, le glissement est presque toujours du côté des francophones, même si le nombre d'anglophones qui sont bilingues augmente, et ça, faut le noter. Le financement d'immersion n'est pas nécessairement au rendez-vous non plus. Le gouvernement chrétien a beaucoup coupé dans les années 90, et ça a comme stoppé la progression de l'apprentissage du français. Bon, ça a repris depuis, là, mais il y a des défis auxquels les minorités francophones en particulier sont confrontées. Je dirais que tous les francophones sont confrontés. Puis aujourd'hui, c'est pas très chic de parler de ça parce que, bon, on voit l'enjeu comme étant ringard parfois, là, des gens qui parlent de la qualité de la langue. Ou on a un sentiment de sécurité culturelle au Québec et dans les minoritaires francophones, on a un sentiment d'avoir fait beaucoup de gains juridiques. Donc, on s'accroche beaucoup à ça. Mais en fait, c'est une discussion, c'est un enjeu, une difficulté perpétuelle là, de l'existence des francophones en Amérique du Nord, du fait qu'on était juste 70 000 quand la Grande-Bretagne nous a pris. On est 8 millions aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, mais il reste que ça a toujours été un combat. Et d'une certaine manière, ça va toujours l'être, même si on peut vivre... mieux à certains endroits que d'autres.
Alors, on le voit entre autres avec certaines... bon, si on pense à la question de l'Université francophone en Ontario plus récemment, là, comment il y a toujours une certaine hostilité aussi par rapport à ces gains que les francophones là, tentent de faire. Là,
oui.
En tout cas, je pense que c'est un bel exemple quand même.
J'ai fait partie des gens qui militaient pour l'Université franco-ontarienne dans une autre vie, puis... je dis dans une autre vie, il y a peut-être 7-8 ans. Et puis, c'était toujours intéressant d'entendre les arguments, justement, des administrateurs des universités bilingues qui disaient « Oui, mais vous allez devoir travailler en anglais de toute façon, puis on vous rend un service de vous donner un environnement bilingue, et puis, ben il faut bien franciser les anglophones, puis vous pouvez nous aider à faire ça. Puis, ben en fait, il n'y a personne qui irait enseigner ça, enseigner dans une université franco-ontarienne, parce que qui voudrait enseigner juste à des franco-ontariens? » J'en ai entendu là, des affaires, là. Or, il n'y a personne qui dirait ça au sujet des anglo-québécois. Non. Ou qui dirait que McGill n'est pas légitime, ou Concordia, ou Bishops. Ouais. En tout cas, donc, encore, je pense qu'il faut Il y a les arguments qui sont déployés comme tels, puis ensuite, il faut les comparer. Puis je pense que l'idée de René Lévesque, de la réciprocité, est intéressante. Puis je dirais qu'il y a certaines critiques, en fait, de la communauté anglo-québécoise qui sont légitimes. Ils sont surreprésentés dans la fonction publique de l'État québécois. Il y a une certaine... L'hostilité, par exemple, au Bonjour High, dans la région montréalaise, dans des régions où ils sont majoritaires, tu sais... En tout cas, en tant que franco-ontarien, moi, je regardais ça, je me disais, ça me ferait plaisir d'entendre « Hi, bonjour » à Ottawa, là, d'une certaine manière, mais on ne l'entend pas. Donc, je pense qu'il y a certaines revendications, une certaine hostilité envers la présence de la langue anglaise ou qu'on veut franciser tous les immigrants. Mais quel pourcentage des immigrants au Québec pourrait se joindre à la communauté anglophone? Est-ce que c'est leur poids démographique? Aujourd'hui, c'est trois fois le poids démographique. Bon, je peux comprendre cette critique-là, mais est-ce que c'est zéro? Donc, il y a des questions par rapport à la dualité linguistique à poser au Québec aussi là, dans l'avenir. Puis, la situation a évolué. On ne peut plus en parler comme on en parlait dans les années 90. Il faudrait en parler comme en fonction de la réalité de 2019-2020. Puis, en tout cas, ça mérite des discussions éclairées, franches, mais calmes.
Dernière question pour clore l'émission. Et je trouvais ça très intéressant parce que dans votre ouvrage, vous faites une petite partie sur les langues autochtones aujourd'hui. Et on en a très, très peu parlé, là, finalement. Et on en parle encore très, très peu, je trouve, aujourd'hui. Alors que l'on sait plusieurs langues autochtones éteintes ou en voie d'extinction, comment sont les gouvernements? Quelle attitude ont-ils envers la protection des langues autochtones?
Je dirais qu'il n'avait pas de politique jusqu'à il y a une vingtaine d'années. On disait que pour fonctionner au Canada, il fallait apprendre l'anglais ou le français. Et puis je dirais que jusqu'aux années 70, on disait qu'il fallait apprendre l'anglais. On parle de préservation de langue ancestrale dans leur cas, parce que dans plusieurs communautés, ce n'est pas le cas dans le Grand Nord ou dans des communautés rurales plus isolées, mais c'est vraiment une langue seconde ou une langue ancestrale, alors que la langue de société, c'est l'anglais ou le français. Dans plusieurs cas. Donc, renverser cela pour que ces gens-là deviennent des cris de langue maternelle ou... en tout cas, c'est plus... c'est pas nécessairement le but qui est souhaité, en fait. Il y a une volonté de transmettre la langue de leurs ancêtres, de l'apprendre, de la préserver. Et ça, j'ai l'impression que dans un projet de réconciliation, c'est un peu nécessaire de reconnaître la légitimité de cette aspiration-là. Comme la légitimité de francophones assimilés qui voudraient envoyer leur enfant à l'école d'immersion ou peut-être même dans une école de langue française, ben qu'on les accommode d'une certaine manière pour favoriser cet apprentissage-là de la langue des ancêtres, parce que la langue ne disparaît que très rarement volontairement. C'est souvent par des contraintes conjoncturelles dans un milieu ou dans une localité ou dans une famille qui révèlent des perceptions et des rapports de force. On choisit rarement ça.
Alors, merci infiniment pour Monsieur Dupuis pour d'être venu ce soir nous parler avec nous de la dualité linguistique canadienne. C'est déjà malheureusement le temps qu'on avait, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir à l'émission. Si vous voulez en savoir plus au sujet de la dualité linguistique au Canada, je vous invite à vous procurer le livre de Monsieur Dupuis, Deux poids, deux langues, brève histoire de la dualité linguistique au Canada, publié aux éditions du Septentrion. Enfin, si vous souhaitez partager ou écoutez l'émission de ce soir, elle sera disponible en balado-diffusion dès demain sur le site de Chiz. Pour terminer, quittons-nous sur une autre pièce musicale, Jour de plaine, du groupe québécois Les Chardonniers de l'Enfer. C'était Amy Bois, Thomas Nadeau-Mercier, Myriam Lévesque à l'animation à la console. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.
Les jours de plaine, on voit jusqu'à la mer. Il y a des jours de plaine, on voit plus loin que la terre. Il y a des jours de plaine où l'on entend parler nos grands-pères dans le vent. Il y a des jours de plaine, j'ai vu des métis sans peinture de guerre. Il y a des jours de plaine où j'entends gémir la langue de ma mère. Il y a des jours de plaine où l'on n'entend plus rien à cause du vent.
J'ai grandi sur la plaine, je connaissais Rengaine et ses vents. J'ai les racines dans la plaine, j'ai toutes ses rengaines dans le sang. J'ai des racines en France, aussi longues que la terre. Une langue qui danse aussi bien que ma mère. Une grande famille, des milliers de frères et sœurs dans le temps. J'ai des racines en France aussi fortes que la mer. Une langue qui pense, une langue belle et fière, et des milliers de mots pour le dire, de comment je vis, de qui je suis. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai les racines dans la plaine, j'ai toutes ses rengaines dans le sang. Il y a des jours de plaine où dans les nuages on voit la mer. Il y a des soirs de plaine où on se sent seul sur la terre. Et il y a des nuits de plaine où il y a trop d'étoiles, il y a trop de lune, le ciel est trop clair. Il y a des jours de plaine où on voit plus loin que la terre. Il y a des jours de plaine où je n'entends plus la langue de ma mère. Il y a des jours de plaine où même mes grands-pères ne sont plus dans le vent. J'ai grandi sur la plaine, je connais
terre en vue. Vos marins d'eau douce sillonnent les archipels du divertissement accompagnés de leurs fidèles matelots. Pour tout savoir sur le meilleur du cinéma, des séries télé, du gaming et plus encore, écoute les marins d'eau douce dans une ambiance décontractée et sans prétention. Un rendez-vous des plus divertissants, tous les vendredis 13h sur les ondes de Cheese 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Cheese 94.3.
Que calor!
Samedi, dimanche, 13h, on vous amène la chaleur tropicale.
Que calor!
Radio Futura 94.3 FM vous amène à un voyage au tropique. En vous pressant les week-ends tropicaux. Son, salsa, cumbia, reggaeton, romántica, vallenato y rock en español. ¡Que comience la fiesta!